Bienvenue à la 42e édition de Litteramour. Pedro Cadivar est dramaturge et essayiste. Il écrit de la prose et travaille comme metteur en scène au théâtre en France et en Allemagne. À l'Exploratorium de Berlin, il a lu des extraits de son roman « Unendlich ist die Nacht », accompagné par les improvisations musicales de la pianiste Susanne Stelzenbach et de la chanteuse Katja Geddes. Dans « Unendlich ist die Nacht », on entend les voix de deux hommes. Ils n'ont pas de nom. Ils vivent ensemble. Nous entendons tour à tour l'un et l'autre. Plongé dans des monologues intérieurs, l'autre, qui n'est pas encore rentré à la maison, qui dort ou qui se tait parce qu'il est perdu dans ses pensées, reste toujours présent. Ils s'aiment. Tous deux ont quitté leur pays d'origine, bien que pour des raisons différentes. Ils ont subi des pertes. L'un est né en Iran, l'autre en RDA. La lecture de Pedro Cadivar commence par la voix du narrateur qui a fui l'Iran et qui dit de lui-même qu'il préserve tout ce que ses yeux, ses oreilles et son âme puissent absorber.
Je voulais rentrer chez moi le plus vite possible. Dans la rue, j'ai fait demi-tour et je me suis dirigé vers le Tiergarten. Le soleil brillait encore. Aujourd'hui était une journée relativement belle, mais je n'en ai pas beaucoup profité. J'étais resté longtemps à l'intérieur, depuis le matin, ne regardant que de temps en temps, par la fenêtre, le grand bouleau avec ses petites feuilles dorées et son tronc blanc devant le mur gris. Je l'admirais et regrettais de ne pas être dehors par ce temps. Puis, je l'ai oublié et je me suis retrouvé à nouveau avec les personnes qui étaient dans la pièce avec moi. À la fin, j'étais tellement fatigué que je voulais seulement rentrer chez moi. Fatigué n'est pas le mot juste. J'étais dépassé, bouleversé, déstabilisé, confus, perdu, en colère, las, triste, épuisé, mais alerte. Y a-t-il un mot pour cela? Je travaille comme traducteur, médiateur linguistique, interprète. On utilise tour à tour ces appellations pour désigner mon travail, bien qu'elles définissent des activités différentes. Je m'assois, j'écoute, puis je traduis en allemand. Puis je réécoute et je traduis de l'allemand ce que j'ai entendu. Je ne choisis pas qui je traduis. Une personne que je rencontre pour la première fois est assise en face de moi. Je dois l'accompagner dans sa langue et la traduire en allemand avec ma voix. Beaucoup de choses peuvent se passer pendant le voyage. Il ne se déroule pas toujours sur un chemin sûr, à la même vitesse et par le même temps. Parfois, un mot m'arrête, résonne si fort à mes oreilles que je ne peux rien entendre d'autre. Parfois, je trébuche sur un mot et je ne sais pas exactement comment le traduire. Plus le mot m'est familier et résonne profondément en moi, plus il est difficile à traduire. En chemin, il y a parfois des tempêtes et des orages. Parfois, il pleut. Parfois, la chaleur m'empêche d'avancer. Parfois, je gèle dans le froid. Une personne entière fait éruption. Toute sa vie se dévoile dans sa voix. Je dois traduire une personne entière que je ne connais pas, depuis sa naissance, et peut-être même bien avant, depuis le moment de sa conception, pendant toute sa croissance, jusqu'à cet instant où il est assis devant moi, même s'il ne balbutie que quelques fragments de sa vie. Je ne sais quand la nuit est tombée. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Mon ami va s'inquiéter. Il m'attend à la maison, mais il sait ce qui peut m'arriver. Il connaît mon besoin irrépressible de faire de longues promenades seul, de temps en temps. Il n'y a presque personne ici. Par moments, quelqu'un croise mon chemin ou passe à côté de moi. Parfois avec un chien. Ils marchent tous plus vite que moi. Il fait froid. Je ne le sens que maintenant, en voyant les autres et leur façon de marcher. J'aime la silhouette nocturne des arbres. J'apprécie le calme de la nuit. Je me suis rarement rendu au Tiergarten après la tombée de la nuit. Je suis chez moi et j'attends mon ami. Attendre. Attendre. C'est quelque chose que je sais bien faire. C'est lui-même qui le dit. Comme un compliment ou comme un reproche, c'est selon. C'est peut-être la seule chose que je sais bien faire. On dit souvent que je suis patient. Je peux en avoir l'air, mais ce n'est pas vrai. La patience est une vertu, pas l'attente en soi. J'ai l'habitude d'attendre. C'était déjà le cas quand j'étais enfant. Mais cela m'apaise. Je devais attendre sans montrer mon impatience, et peut-être même avant, dans le ventre de ma mère. Et plus tard, quand je devais attendre longtemps que ma mère vienne me chercher à l'école maternelle. J'étais toujours le dernier enfant. Elle devait travailler et avait un long trajet à faire, une torture quotidienne. Cela est resté une habitude inhabituelle jusqu'à la fin. Le plus difficile était l'attente après que l'avant-dernier enfant était parti. Ce moment était toujours trop long, même s'il avait toujours la même durée. Ma tristesse et mon agitation étaient toujours aussi fortes. J'avais toujours un petit doute quant à savoir si ma mère viendrait, même si elle venait toujours. Il surgissait en moi lorsque l'avant-dernier enfant était parti et durait jusqu'à l'arrivée de ma mère. Plus tard, j'ai dû attendre une place à l'université. Je voulais étudier la philosophie et je n'ai pas pu m'inscrire tout de suite. Et après avoir abandonné mes études, j'ai dû attendre de pouvoir enfin quitter mon pays. Mon pays s'appelait la RDA. Il n'existe plus. Le mur est tombé un an après que je l'ai quitté. Entre-temps, attendre est devenu pour moi un métier, voire une vocation. Attendre sans rien dire, sans rien montrer. Attendre sans pouvoir être patient. Il se fait tard, pourquoi n'arrive-t-il pas? Je suis assis dans la cuisine. Elle est assez spacieuse pour que nous puissions nous asseoir tous les deux à table et discuter, souvent pendant le repas. J'aime aussi m'asseoir ici seul et lire, ou boire mon café sans rien faire d'autre. Regardez par la fenêtre. Je regarde le vieux marronnier dans la cour intérieure et le ciel, toujours depuis le même endroit où je suis assis. Mais je ne vois rien à travers la fenêtre. Il est 21h36. Je suis inquiet. Lui est-il arrivé quelque chose au travail? Je me sens aussi seul qu'à la maternelle. Même quand on vit avec quelqu'un, il y a des moments où l'on se sent seul. Et pas seulement quand on est seul. Il y a des moments où il est assis en face de moi et où je me sens seul. Ma solitude éclipse sa présence. Il m'a dit qu'il ressentait parfois la même chose. Si vous cherchez un partenaire, pour ne plus jamais vous sentir seul, vous avez tort. Nous sommes tous les trois assis dans le bureau. Il fixe le sol et ne dit pas un mot. Puis il lève la tête et nous regarde tous les deux, le conseiller et moi, comme s'il venait de se rappeler soudain qu'il n'était pas seul. Et il nous sourit. Il se souvient où il se trouve. Il baisse brièvement les yeux vers le sol, puis il nous sourit à nouveau. Ses yeux sont humides et il sourit, comme si soudain il était heureux d'être ici avec nous. Il ne dit toujours rien. Nous ne sommes pas là depuis longtemps, mais cela semble durer une éternité, jusqu'à ce qu'il parle. Il va parler et je vais traduire. C'est l'objectif. Je me demande si le temps passe vraiment aussi lentement comme pour moi. Le psychologue semble patient. Il l'a appris, c'est une patience qu'il a étudiée, sujet de nombreux examens passés. Une patience professionnelle qu'il a déjà mise en pratique pendant sa formation et qu'il connaît bien depuis. Une patience accompagnée d'un léger sourire. Faire preuve d'ouverture d'esprit, montrer de l'empathie, donner un sentiment de sécurité, dans l'intérêt du patient. Et en même temps garder ses distances, physiquement et émotionnellement. Se contrôler, rester objectif, accepter sa propre impuissance. Puis, pour le bien du patient. Ce n'est pas pour rien qu'il a réussi ses examens. Le patient ne dira pas un mot d'allemand. Il parlera dans sa propre langue dont le conseiller ne comprend pas un seul mot. Il parlera dans sa langue maternelle qui est aussi la mienne. Il parlera dans notre langue maternelle commune, même si nous n'avons pas de mère commune. Nous sommes frères dans la langue, même si je vis depuis longtemps loin du pays où cette langue est tenue pour la langue maternelle. Même si j'ai refoulé cette langue pendant un certain temps et que je ne voulais pas la parler, l'entendre ni l'écrire. Elle reste néanmoins ma langue maternelle, même si je vis depuis longtemps loin de ma mère. et on croit que la langue maternelle reste la langue maternelle quoi qu'il arrive, même si l'on vit depuis longtemps loin de son pays natal et que l'on a trouvé un nouveau chez soi dans d'autres langues. Il va bientôt parler et je dois traduire. C'est ce qui a été convenu. Chacun joue son rôle. Le client parle, le traducteur traduit, le psychologue conseille. Les deux derniers ont un contrat de travail et sont rémunérés. Le client est ici de son plein gré. Il a besoin d'aide et souhaite être aidé. Mais nous sommes tous les trois des êtres humains, avec chacun son propre passé et sa propre langue maternelle. Nous sommes fondamentalement semblables. Seules nos langues maternelles sont différentes et nos passés ont suivi des chemins différents. La première phrase jaillit de sa bouche comme un morceau de papier froissé. Il dit que ses cauchemars ont recommencé, qu'il crie fort chaque nuit pendant son sommeil et que ses colocataires qui vivent dans la même chambre au centre d'accueil pour réfugiés le réveillent. Sinon, il continuerait à crier dans son cauchemar jusqu'à l'aube. Chaque nuit, c'est pareil. Il continue de parler et je l'interromps. Je dois d'abord traduire ces quelques phrases pour le psychologue. Je ne veux oublier aucun mot. Le psychologue doit tout savoir en détail. Je dois transmettre toutes les informations. Mais la parole elle-même, la voix, la façon dont elle parle sa langue maternelle, dont elle prononce et accentue certains mots, une langue ne peut pas être transmise. Je n'aurais jamais dû signer mon contrat d'interprète. Mais que puis-je faire d'autre? Je dois bien gagner ma vie. Je jette un coup d'œil par la fenêtre. Le bouleau doré brille au soleil. Lorsque je traduis, le conseiller ne me regarde jamais. Il continue à regarder le client. Je traduis dans le bon ordre. Les chiffres et les adjectifs sont corrects. Seule la voix n'est pas la sienne. Je n'ai pas son accent, celui d'une région située à la lisière du désert, au centre de l'Iran. Il y a de la chaleur dans sa voix. Le soleil rayonne dans sa voix et il transpire. Je ne peux pas traduire cela. Je ne peux pas non plus traduire comment j'avance vers lui dans mon pays natal lorsque j'entends sa voix. Je ne peux malheureusement rien transmettre de tout cela, et pourtant c'est ce qui me touche le plus. Il fait chaque nuit le même cauchemar. C'est tôt le matin dans son petit village. Il fait encore à peine jour. Il se rend sur la grande place au centre du village où il doit être pendu. Deux soldats l'accompagnent. Sa femme et son jeune fils marchent derrière lui ainsi que sa mère, suivie de quelques villageois. Son fils a 5 ans. Il va dire au revoir à son père et partir, juste avant sa pendaison. Il n'a pas le droit de voir son père pendu. Tout le monde est silencieux. Le client fixe le sol en marchant. Le sol de son village où il est né et a grandi. Parfois il se retourne et sourit à son fils. Ils sont bientôt arrivés. Le village est petit, mais le chemin semble interminable. Il doit être patient. Ce sont les dernières minutes de sa vie. Aussi terrible soit-elle, il doit en profiter. Peu avant d'arriver sur la place, il s'arrête. Il dit au revoir à son fils. Il se penche vers lui, le regarde dans les yeux, lui sourit et le prend dans ses bras. Un vieil ami emmène le fils chez lui. Ils sont enfin arrivés. La potence se dresse au milieu de l'herbe fraîche. Un grand monument. Le bourreau attend déjà. Il porte un masque. On aperçoit à peine ses yeux à travers deux trous minuscules. Le client fait ses adieux à sa femme et à sa mère. Toutes deux pleurent. Son père et ses frères ne sont pas venus. Ils ne voulaient pas accompagner un pêcheur vers la mort. Il le mérite. Il a couché avec un homme et il le mérite. Il a détruit l'honneur de la famille et il le mérite. Il a enfreint la loi de Dieu et il le mérite. Il a trompé sa femme et son fils et il le mérite. Il y a suffisamment de raisons pour rester au lit ce matin avant qu'il ne l'abomine lors de la prière du matin. Il y a suffisamment de raisons pour l'oublier, comme s'il n'avait jamais existé. Mais ils savent tous qu'il est impossible d'oublier un fils et un frère. Il se tient maintenant à côté du bourreau. Ses mains sont liées. Les mains du bourreau sont tout près de son visage. Ils veulent lui passer le garrot autour du cou. Ses mains sont belles, elles sont grandes et fraîches. Elles sont propres, elles sentent le savon et l'eau de rose. Elles auraient pu lui caresser le cou. Il cherche les yeux du bourreau. Il veut regarder dans les yeux le dernier être humain qu'il rencontre et qui le touche. Le bourreau est occupé. Il doit agir avec précision, accomplir sa tâche. Il est payé pour cela. mais malgré son habileté, il semble incertain. Ses doigts tremblent. Il veut à tout prix éviter le regard de sa victime. Mais un bref instant, le regard se croise et le bourreau comprend immédiatement que sa victime l'a reconnu. Les mains tremblantes, le bourreau poursuit son travail tandis que le condamné fixe le sol. Il ne cherche plus le regard de son bourreau. Il l'a reconnu. C'est un ancien camarade de classe. Que vient-il de se passer? Je repense que nous sommes tous les trois des êtres humains. Peut-être le même être humain avec plusieurs passés, plusieurs mères et plusieurs langues maternelles. Mais à trois, nous ne formons qu'un seul être humain dans cette pièce. Il y a toujours un moment où ce que raconte le client devient notre histoire à tous. L'histoire de tous ceux qui l'écoutent. Nous quittons la pièce. Le client dit au revoir. Le conseiller lui serre la main. Nous nous reverrons la semaine prochaine. Il continuera à le conseiller. En cas d'urgence, il doit se rendre à l'hôpital où il sera admis à tout moment. Le client le remercie. Il me remercie chaleureusement, les yeux humides. Je dois bientôt partir moi aussi. Il est 3h30. Je veux rentrer chez moi, le plus vite possible. Je suis déjà dans la rue, mais je ne peux pas rentrer chez moi. Impossible.
Le roman de Pedro Cadivar, Unendlich ist die Nacht, est une fiction. Même s'il est vrai que l'auteur a fui l'Iran pour s'installer à Berlin, il ne faut pas tomber dans le piège de l'identifier à son alter ego iranien. J'ai demandé à Pedro Cadivar si l'expérience de la fuite était le moment déterminant dans la vie de ses personnages.
Ja, also eigentlich bei den beiden Figuren ist das so. Es gibt einen Satz im Stück Kunst der Flucht: Wenn man einmal geflüchtet ist, ist man immer auf Flucht.
Alors en fait, c'est pareil pour les deux figures, pour les deux personnages. Il y a une phrase dans ma pièce Kunst der Flucht qui dit: Quand on a fui une seule fois, on est toujours en train de fuir. Alors pour Kunst der Flucht, j'ai interviewé pas mal de réfugiés. Et en fait, c'est souvent ce sentiment, mais ça ne se laisse pas formuler directement de cette manière-là. Chaque fuite n'est pas forcément un trauma. Et c'est aussi d'ailleurs la définition d'un trauma, que ça reste comme tel. Et dans les deux cas, les deux personnages, de manière très très différente, ce sont des traumas très différents. Et il y a aussi des moment où le personnage allemand parle des premiers jours quand il venait d'arriver à Berlin-Ouest. Comment était son sentiment par rapport à la langue allemande qu'il entendait cette fois-ci dans l'autre partie de la ville. Donc, normalement, on pourrait dire que ça, c'est la même langue et en même temps, c'est pas tout à fait la même langue. On reconnaît en fait cette autre langue, cet autre allemand par des petits mots, des petites choses, des petits détails, par une accentuation. Et c'est aussi effectivement une sorte de trauma. Quand on se sent étranger dans sa propre langue, on passe d'une partie de la ville à une autre partie de la ville. Et cette expérience de fuite, de départ, est en fait très marquante chez les deux personnages, mais de manière différente.
Je dois, bei der Lektüre, immer wieder mal an George Arthur Goldschmidt denken.
En lisant votre livre, j'ai pensé à George Arthur Goldschmidt, qui aujourd'hui a 97 ans. Il a fui Rheinbeck, près d'un bourg, à l'âge de 10 ans. Il a survécu en France. Il est resté et a été professeur d'allemand toute sa vie. Son premier livre en allemand, il ne l'a écrit alors qu'il était déjà presque à la retraite. Il est le traducteur de Kafka et de Walter Benjamin en France, ainsi que de Peter Handke, et a beaucoup réfléchi à ce que signifie écrire en allemand ou en français. Il parle plutôt de langue de vie et de langue d'origine que de la langue maternelle. Goldschmidt dit qu'à certains moments difficiles de sa vie, il ne pouvait pas faire autrement qu'écrire en français. Il lui était impossible de retourner dans le pays qu'il avait exclu et il ne pouvait l'exprimer et partager qu'en français. Vous, Pedro Cadivar, vous avez quitté l'Iran après la Révolution, à un moment où elle n'était pas encore aussi pervertie qu'à l'époque où l'homme appelé les clients raconte les exécutions et les atrocités commises à l'encontre des minorités.
Also die Repression war sehr stark geworden und das war auch der Grund, warum ich geflüchtet bin.
La répression était devenue tellement forte et c'était aussi la raison pour laquelle j'ai fui de l'Iran. J'étais très jeune et donc je ne pouvais pas vivre ce cauchemar que raconte le client dans le roman. On ne fait pas le choix de la langue dans laquelle on s'exprime. C'est en fait la vue de pas mal de gens qui ont toujours parlé dans la même langue, c'est-à-dire dans leur langue maternelle. Et ils pensent que si quelqu'un parle plusieurs langues, il est libre de choisir dans quelle langue il peut s'exprimer parmi les langues qu'il parle. Or, la langue n'est pas un moyen, la langue n'est pas un instrument simplement qu'on peut utiliser de manière indifférente pour exprimer quelque chose. La langue elle-même est en fait est déjà un contenu, porte tout un monde et a aussi une forme. Mais cette forme fait sens précisément. Donc une langue en soi fait déjà sens. Et c'est la raison pour laquelle aussi traduire est très difficile. Je ne peux pas choisir la langue dans laquelle j'écris parce que la langue en soi est déjà signe et contenu.
Sprache und Identität sind ein bestimmender Themenkomplex im Roman Unendlich ist die Nacht. La langue et l'identité sont des thèmes centraux dans le roman Unendlich ist die Nacht. Pedro Cadiva aborde également les questions de l'influence des lieux sur notre perception de nous-mêmes et du monde et de l'impact de la marche sur notre façon de penser. Le narrateur divise l'humanité en deux groupes, ceux qui se promènent et ceux qui ne se promènent pas. Ça fait penser à Michel de Montaigne qui notait « Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent ». Je pense également à l'écrivain Robert Walza qui considérait la marche comme un travail ou à Peter Handke, un promeneur passionné.
Ja, es gibt wirklich unglaublich viele Referenzen in Bezug auf das Gehen. Es gibt auch diesen Satz von Nietzsche, er sagt, ich denke, wie ich gehe.
Oui, il y a énormément de références au fait de marcher par rapport à la marche. Et il y a aussi cette phrase de Nietzsche qui dit « je pense comme je marche », très important. En fait, il s'agit d'un processus de pensée, ce qui est déclenché, provoqué par la marche. Et là, effectivement, je pense à un souvenir d'enfance. Il y a à Persépolis, il y a les ruines, effectivement, de ce palais d'été de Darius dans l'Empire perse. Et à l'époque, donc, quand ça a été construit, 600 avant Jésus-Christ, et ces ruines sont encore vraiment magnifiques, il y a effectivement une façade à une des entrées du palais. Il y a un grand mur avec des escaliers symétriques à droite et à gauche. On peut les monter pour accéder au palais. Et en fait, les marches sont très plates. Et très longtemps, les historiens ont pensé que ces marches étaient construites de cette manière-là parce qu'ils montaient justement à cheval. Ces marches-là. Alors que, après, on a découvert que ce n'était absolument pas la raison. C'est que le fait d'avoir des marches très, très plates ralentit la marche, en fait. C'est-à-dire, on est obligé de monter les marches très lentement. Et donc, cette lenteur donne un rythme à la pensée, à la manière dont on pense. C'est-à-dire, on est obligé de se concentrer parce qu'on est obligé de marcher, de monter les marches très lentement. Et donc, ça permettait en fait une montée de marche méditative et que précisément cette manière de marcher permet justement une concentration et en général, la marche permet une concentration.
Und wenn wir bei den Orten bleiben, weil das auch sehr schön aufgegriffen wird, in Unendlich ist die Nacht.
Et si nous restons sur les lieux, car cela est très bien repris dans votre roman Unendlich ist die Nacht, il modifie également notre capacité à lire et à comprendre. Vous vous êtes intéressé à Proust, à son esthétique, vous avez rédigé votre thèse de doctorat à l'université Humboldt et vous avez découvert que lire Proust à Berlin était quelque chose de tout à fait différent.
Das klingt anders, natürlich.
Klingt anders.
Ja, das heißt, also die Umgebung, in der man liest, natürlich hat einen Einfluss auf das, wie man den Text wahrnimmt, wie man den Text hört.
Ça sonne effectivement différemment, bien sûr. C'est-à-dire en fait que l'environnement même dans lequel on se trouve et on lit a bien sûr une influence sur le texte, sur la manière dont on le perçoit. et comment on l'entend. Il y a d'ailleurs un parallèle avec quelque chose que j'ai vécu moi-même, c'est que quand je suis arrivé à Berlin, je lisais Proust, et tout à coup, ça sonnait autrement. C'était un autre français dans cet environnement berlinois qu'à Paris. Ça sonne autrement, effectivement. Et ce Proust qui avait quelque chose de poussiéreux à Paris, parce que ça fait partie des classiques, même s'il y a des gens qui exècrent ou n'aiment pas du tout Proust, mais ça a quand même un statut, Proust. Et de même que écrire ou lire Proust. Et puis, tout à coup, là, sa voix rajeunissait, en fait, à Berlin, dans cet environnement-là.
Es werden ja, ich habe sie mir aufgeschrieben, ja verschiedene Denker und Künstler erwähnt.
J'ai noté les noms de différents penseurs et artistes. Vous venez de parler de Proust. Vous avez lu un passage où Giordano Bruno et son destin sont mentionnés. Giordano Bruno est mort sur le bûcher l'année où Blaise Pascal est né. Et Blaise Pascal fait également partie des philosophes classiques qu'il faut avoir lus, je crois, quand on vit en France. Il s'oppose en quelque sorte à Descartes, et Descartes domine la pensée pascalienne. Vous mentionnez Gilles Deleuze, le cinéaste Éric Rohmer, l'acteur Antoine Vitez, qui a mis en scène une pièce de Brecht, Le manteau de l'hérétique, qui renvoie à Giordano Bruno. Vous évoquez Beckett et Jorge Luis Borges, et Emmanuel Levinas est également présent. Notamment en ce qui concerne la structure du roman, la répartition entre deux voix qui sont indépendantes, qui dialoguent avec elles-mêmes, mais l'autrui reste présent. Levinas, c'est bien le penseur qui laisse absolument subsister le mystère de l'autrui, son altérité.
Ja, Levinas ist umso stärker präsent, dass nicht benannt wird im Buch.
Oui, Levinas est d'autant plus présent qu'il n'est pas nommé dans le livre. Et le thème principal est précisément l'altérité. Comment je perçois l'autre? Comment je peux le percevoir? Et Levinas est précisément la grande figure de l'altérité dans la philosophie européenne, celui qui a abordé ce thème-là, et malheureusement très tardivement. Il y a effectivement un manque dans la philosophie européenne qui est sinon très développé. C'est-à-dire qu'un thème aussi important que l'altérité n'a pas été abordé par les grands philosophes allemands, européens. Et ce n'est que XXe siècle que Levinas en parle. Lui consacre en fait toute son œuvre. Et c'est précisément le thème du roman aussi. Qu'est-ce qu'ils ont à se raconter, ces deux personnages? L'un vient de l'Iran, l'autre de l'Allemagne. Ils ont fui leur pays, les deux, mais dans des contextes différents. Et Levinas serait en fait la référence philosophique pour ce roman. Je crois, comme Achille Mbembe d'ailleurs, que vous connaissez certainement, qui a écrit ce très beau livre « Critique de la raison nègre », donc c'est évidemment une allusion à Kant. Il dit qu'à partir de là, on peut expliquer pas mal de choses, à partir de ce manque justement dans la philosophie européenne. Par exemple, la manière dont le nazisme s'est développé ou la xénophobie par le colonialisme. Et c'est effectivement un grand manque. Comment je dois me comporter face à l'autre qui a une autre apparence, qui pense autrement? Quel est mon lien à mes semblables?
Aus dieser eine schöne Satz, einem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wachgehalten zu werden.
Ja. Levinas constate une asymétrie dans la relation des êtres humains, à partir de laquelle il développe une éthique de la responsabilité, si je comprends bien.
Also Levinas sagt eigentlich, dass ich einen Menschen nicht kennen kann.
Levinas dit en fait que je ne peux jamais connaître un homme, un être humain. Un être humain est toujours quelque chose qui me remet en cause, qui remet en cause ma propre capacité à connaître et qui la dépasse. Donc c'est toujours une transgression, la rencontre avec l'autre, et me remet en cause. Je ne peux jamais dire que je connais un homme, que je saisis un homme, un être humain. L'autre est toujours un point d'interrogation en face de moi. Et cette question de la vulnérabilité est évidemment très importante chez Levinas. Quand je regarde l'autre dans les yeux, je découvre sa vulnérabilité. Et c'est ce qui fait que je suis responsable pour lui. Et le sujet, enfin la thématique de la vulnérabilité est aussi très importante dans le roman. dans la fragilité de ces deux personnages et comment ils sont tout le temps en train de lutter contre leur propre peur en permanence. Vous avez très bien reconnu, effectivement, Lévinas, je l'aime beaucoup et je l'ai encore relu pour un autre livre sur lequel je travaille et qui doit apparaître en France. J'ai découvert à cette occasion deux très beaux textes qu'il a écrits dans les années 30. Un texte qui s'appelle « Réflexions sur la philosophie hitlérienne » et où il dit « Le problème dans cette vision hitlérienne, c'est qu'on ne peut pas définir le rapport à l'autre, le lien à l'autre ». Et il y a aussi un autre texte que j'ai découvert, qui a été aussi écrit dans les années 30, quand il n'était absolument pas connu, et qui s'appelle « Désir d'évasion ». Et il dit justement qu'en fait, l'homme se définit par son désir d'aller ailleurs, par cette recherche de l'ailleurs, dans ce mouvement-là, qui va à l'encontre de la vision du nazisme et du fascisme, où l'être humain se réduit en fait à son origine et doit aussi rester dans cette origine-là. Et pour Lévinas, c'est évidemment en contradiction avec la définition même de l'être humain.
Noch ein Wort vielleicht zum Unendlichen.
Encore un mot sur la notion de l'infini. Giordano Bruno, comme nous l'avons entendu dans votre lecture, et Pascal ont réfléchi et écrit sur l'infini et l'insondable chez l'être humain. Que signifie pour vous la catégorie de l'infini?
Das bedeutet die Möglichkeit, sich immer zu bewegen.
Ça veut dire la possibilité d'être toujours en mouvement, parce que, en fait, l'infini est le meilleur espace. Donc, c'est une notion qui apparaît dans le roman sous différentes formes. Et Lévinas utilise aussi cette notion-là de l'infini, parce que, justement, l'autre a toujours quelque chose d'infini, parce qu'on ne peut pas le saisir complètement, on ne peut pas en faire le tour et dire que l'autre est ceci et rien d'autre. Cette notion est très féconde parce qu'on peut l'aborder à des niveaux très différents et jouer aussi avec cette notion-là à des niveaux très différents.
Et c'était le 42e épisode de Litteramour en compagnie de Sigrid Brinkmann et de Pedro Cadivar, écrivain et metteur en scène. Vous trouvez ces livres chez Gallimard et en Allemagne aux éditions Sujet. Merci pour votre écoute, joyeuses fêtes de fin d'année et bonne lecture.